Je vous invite, chers frères et sœurs, à ouvrir votre Bible dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4. Nous allons lire les trois premiers versets. Alors, le chapitre 3, verset 20 et 21, considérer cette citoyenneté céleste. Je me rappelle, dans le premier dimanche du mois de janvier 2019. Et donc, voilà, je ne le refais pas, mais on pourrait revenir après là-dessus. Donc, on entame donc le chapitre 4 de notre étude suivie dans l'épître de Paul aux Philippiens. Je lis et nous écoutons la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèles collègues, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Allons prier. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi, conscients de notre faiblesse et nos imperfections, et nous venons réclamer la pleine direction de ton Esprit Saint, qu'il puisse illuminer nos cœurs, afin que nous saisissions ta parole et qu'il puisse soumettre nos cœurs à l'obéissance de ta parole. Amen. Avez-vous déjà eu des conflits dans votre vie, des conflits relationnels peut-être avec quelqu'un? Si vous dites non, vous allez me faire croire que vous venez d'une autre planète. Parce que je crois que l'histoire même de notre monde, hein, quand on la regarde, elle est faite de conflits, hein, de parfois dissensions, de querelles. Et quelqu'un faisait remarquer que sur à peu près 3000 ans d'histoire, il y a peut-être quelques 200 ou 300 années de paix seulement, il y a eu. Donc partout, on vit, nous, dans un petit, peut-être en Europe, dans un petit espace un peu protégé, et on peut oublier que sur la majeure partie du monde, il y a beaucoup de guerres et de choses comme cela. Mais d'une manière plus proche de nous, je crois que personne ne peut affirmer n'avoir jamais eu de conflit avec les autres. Dans un couple, il y a parfois des conflits. Dans les familles, il y a parfois des conflits. Dans le milieu professionnel, il y a aussi des conflits. Et puis même dans l'église, entre frères et sœurs, il y a des conflits. Et en lisant l'histoire de l'Église, on peut voir que ces conflits apparaissent même très tôt dans l'Église de Jérusalem, parce que si vous vous rappelez, hein, il y a eu, alors que l'Église était en train de grandir, il y a eu un conflit entre les Hébreux et les Hellénistes. Et la Bible dit que ça, c'était à cause d'une question de partage, de distribution à ceux qui avaient besoin. Donc les choses ne se faisaient pas exactement comme il fallait, des personnes étaient oubliées, et cela a généré un conflit, et les apôtres ont dû vite remédier à cela. On peut souligner l'importance, en tout cas, de l'unité que doit avoir l'Église lorsqu'on lit l'Écriture. L'Église de Corinthe, par exemple, il y avait aussi même des clans, rappelez-vous, en son sein. L'apôtre Paul dit « J'apprends qu'il y a des personnes qui disent « Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, c'est moi de Céphas, c'est moi du parti de Christ. » Ils avaient déjà, la division était telle qu'ils étaient déjà, disposés en clans. Semer la division parmi les croyants, et détruire l'unité de l'Église est l'un des objectifs les plus, les objectifs principaux du diable. Et le Seigneur Jésus, dans sa prière, juste avant sa mort, a prié pour l'unité de ses disciples et pour l'unité aussi des croyants. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. C'était au verset 11 de Jean chapitre 17. Au verset 21, il dit, afin qu'ils soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, et que le monde croit que tu m'as envoyé. Donc, il voit, il met même une force de témoignage sur cette unité des croyants entre eux. Et au verset 22, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc, vous voyez, cette plaidoirie, cette requête du Seigneur Jésus à son Père pour l'unité même de ses disciples. C'est dire qu'il est, bien sûr, conscient. Cela nous montre à quel point Jésus était conscient de la division qui peut arriver dans les églises. Rappelez-vous de l'apôtre Paul, en Actes chapitre 20, il parle aux anciens de l'église d'Éphèse et il dit « Je sais qu'il y aura des loups ravisseurs qui vont venir, qui vont s'élever du milieu de vous, etc., pour ravir le troupeau. » Et il leur demande de prendre garde. Et on pourrait lire beaucoup de passages dans l'Écriture où il y a une mise en garde contre la désunion, le désaccord, contre ceux qui engendrent des divisions aussi au sein de l'Église. Et dans notre texte aujourd'hui que nous avons lu, l'apôtre Paul traite une situation conflictuelle entre deux sœurs dans l'église de Philippe. Nous ne savons pas quelle était la raison de leur différend, mais on sait qu'il y avait un différend entre ces deux sœurs. Le Saint-Esprit n'a pas jugé bon de nous dire de quoi il s'agissait, mais il a jugé bon de nous dire comment faire quand il y a des difficultés. Et on pourrait regarder à partir de ce passage ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Alors, le titre du message ce matin, c'est « La résolution biblique des conflits entre croyants ». La résolution biblique des conflits entre croyants. Je vous propose un certain nombre d'aspects tirés de ce texte, et puis un petit peu plus largement avec d'autres, sur comment est-ce que l'on doit résoudre les conflits qui peuvent exister entre les croyants. Et si vous réfléchissez bien, si vous pensez, peut-être même aujourd'hui même, vous pouvez être dans une relation conflictuelle avec quelqu'un, ou peut-être vous le dites pas, mais peut-être, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas clair vis-à-vis de quelqu'un. Et la parole nous invite à considérer convenablement ces choses-là. Premièrement, on souligne ici que la résolution d'un conflit entre croyants est toujours une priorité ou toujours une urgence. Il est toujours urgent de résoudre les conflits. L'apôtre Paul écrit cette lettre pour remercier l'église de Philippe d'avoir pourvu à ses besoins. Chapitre 4, verset 10, il dit, voilà, vous avez pris part à mon besoin, et il exprime sa reconnaissance à l'église, il exprime sa joie. Et il rassure les chrétiens aussi sur sa situation. Il leur dit que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Chapitre 1, verset 12. Mais on comprend aussi que le but de cette lettre, c'est d'exhorter fortement... Merci beaucoup. Merci. On comprend que le but de cette lettre, c'est d'exhorter fortement deux sœurs à se réconcilier. J'exhorte, dit-il, et vous dit, et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Paul ne dit pas ici, bon, en passant, il serait bien que Saint-Tiche et vous dit renouent le contact. Je dis ça, je profite de cette lettre pour le dire rapidement. Si on lit bien la lettre, on voit que ça, c'est quelque chose qu'il a dans son esprit, peut-être même dès le début de la lettre. Parce qu'au chapitre 1, verset 27, si vous regardez, il dit déjà, regardez chapitre 1, verset 27, il dit ici, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » C'est un appel à l'unité qu'il lance déjà ici, au chapitre 2 et au verset 1, Nous pouvons lire ceci, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, si donc il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, verset 2, « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment. » C'est exactement ce qu'il vient de dire. J'exhorte Évodie et Saint-Tich à avoir un même sentiment. Il dit « Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Puis il arrive à ce chapitre 4, chapitre 3, verset 15 et 16, rappelez-vous, on avait considéré ça, il dit « Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes d'un autre avis, en quelque point, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas encore. » Cet appel à l'unité. Puis chapitre 4, il arrive et il dit « J'exhorte Évodie et Saint-Tich. » On pourrait dire qu'il est passé ici du général un peu au particulier. Hein. J'exhorte Évodie et Saint-Tich à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Donc la résolution d'un conflit entre croyants est toujours une urgence. On voit que l'apôtre Paul ne prend pas cela à la légère. Parce que le conflit non réglé est un obstacle à l'unité et à la stabilité de l'Église. C'est comme ça qu'il le présente. Il parle de l'unité de l'Église, de l'unité des croyants. Il arrive à cette situation et cela établit un lien. Il montre que lorsqu'un conflit n'est pas réglé, eh bien, on met en danger l'unité et la stabilité de l'Église. Donc l'exhortation qu'il fait à Évodie et à Saint-Tich est sans doute au moment où il écrit ce qui nuit à l'unité qu'il a appelée hein, fortement dans les premiers chapitres de cette épître. L'Église ne doit pas rester inerte, ne doit jamais rester inerte face aux divisions. On peut pas dire, bah, ça c'est leur problème. Oui, c'est vrai, ils s'entendent pas, mais bon, mais ça reviendra. C'est des chrétiens, ils vont retrouver la raison un jour, non, l'Église ne doit pas rester inerte. Et c'est pour cela qu'on lit parfois dans l'Écriture des appels même à avertir et à s'éloigner même de ceux qui causent des divisions. Je vous donne un exemple dans Tite chapitre 3 versets 10 et 11. L'apôtre Paul dit « Éloigne-toi après un premier et un second avertissement. Éloigne de toi, pardon, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. » C'est dire le sérieux avec lequel il faut considérer la chose. Le conflit non réglé est un obstacle à l'unité et à la stabilité de l'Église. Mais le conflit non réglé est aussi un obstacle au service même que l'on offre à Dieu. C'est Jésus lui-même qui le dit, rappelez-vous en Matthieu chapitre 5, verset 24, il dit ceci, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes, tu es là et puis en train de servir, comme tu veux être au clair avec le Seigneur, tu dis « Seigneur, voilà, montre-moi s'il y a quelque chose dans ma vie qui ne va pas. » Et hop, il vient à ton esprit, quelqu'un dit, un frère qui a quelque chose contre toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, Jésus dit, tu laisses là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Donc, quelque part, ce qu'il est en train de dire, c'est que une situation conflictuelle non réglée est un obstacle, en fait, à un véritable service envers Dieu. Il dit, on ne peut pas servir en gardant dans notre cœur, de notre côté en tout cas, quelque chose qui ne soit pas réglé. Bien sûr, quand on règle, on dit qu'il faut que les deux personnes soient d'accord, mais ce que Jésus dit ici, il dit, toi, tu vas, et puis tu entames la démarche et tu tente de régler la chose. L'autre ne reçoit pas, c'est pas, il dit pas que l'autre doit te recevoir, il dit, tu vas le voir, tu règles, tu vas te réconcilier avec ton frère, et puis après, tu viens. C'est-à-dire que tu dois être dans cette disposition, tu refuses d'accepter, en tout cas de tout ce qui est de ton pouvoir, le conflit en l'état. Il faut que tu fasses de cela une urgence, une priorité à régler, parce que c'est un obstacle au véritable service lui-même. Okay. Donc la résolution d'un conflit est de première importance. Donc notez que le commandement de Jésus n'est pas de se retirer du service. Il ne dit pas, si tu te rappelle que ton frère a quelque chose contre toi, arrête de servir. N'offre plus d'offrande. C'est pas ce qu'il dit. D'accord ? Il dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, arrange-toi pour pouvoir offrir convenablement le service, ton offrande. C'est-à-dire, tu vas te réconcilier, tu vas enlever ce qui crée un obstacle. Tu vas chercher en tout cas à résoudre ce qui crée un obstacle. Il ne dit jamais qu'on doit se retirer de quelque chose. Il y a parfois des gens qui s'auto-punissent en disant « Bon, ça va, il y a un problème, donc je me retire. » Je fais pas. C'est pas ce que Jésus nous demande de faire. Il nous demande toujours d'être... Les commandements sont positifs. Hein. Il dit « Tu dois offrir ton offrande, mais tu dois t'assurer qu'il n'y a pas quelque chose qui crée un obstacle à ton service. Si tel est le cas, tu dois donc considérer comme une priorité de résoudre la difficulté. Alors ça peut être n'importe quelle chose, ça peut être un conflit entre deux personnes, et ça peut être un péché, ça peut être, mais il faut que la chose soit réglée. La chose normale, c'est de servir Dieu et donc d'ôter vraiment l'obstacle. Donc première chose, on pourrait, je le dis ici, la résolution d'un conflit entre croyants est toujours une priorité, toujours une urgence. Deuxième chose, c'est que la résolution d'un conflit est en premier lieu la responsabilité des personnes directement impliquées. La résolution d'un conflit est en premier lieu la responsabilité des personnes qui sont directement impliquées. L'apôtre Paul s'adresse premièrement à qui ? À Évodie et à Saint-Tiche. Il dit, j'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche. Il dit pas à l'assemblée, je vous exhorte. Non, il dit, j'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Il dit, vous avez, vous toutes les deux, la responsabilité première de vous réconcilier. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Donc, Évodie et Saint-Tiche devaient être consciente de la responsabilité qui repose sur elle en premier lieu. D'accord ? C'était pas en premier lieu forcément la responsabilité des gens de l'Église, c'était à eux premièrement que revient cette responsabilité. Et ce qu'on pourrait souligner ici, c'est que chaque personne ici a l'égale responsabilité d'initier la réconciliation. Ouais. Paul ne dit pas j'exhorte Évodie et Saint-Tiche. Vous pourrez penser, c'est Évodie qui est exhorté et puis Saint-Tiche un peu moins. C'est peut-être que Évodie a plus de tort que Saint-Tiche. Il dit, j'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche. Il met les deux sur le même pied d'égalité. Il s'adresse aux deux avec la même force, avec le même commandement, avec la même exhortation. Nous entendons souvent quand nous avons des problèmes relationnels à régler, mais c'est lui qui a commencé. C'est lui qui doit faire le premier pas. C'est à lui de venir me voir. C'est lui qui m'a offensé. Donc c'est lui qui doit faire le premier pas et venir me voir. Et c'est intéressant de voir que Dieu ne nous dit pas quel était le problème ici. Il ne dit pas qui a commencé. Il ne dit pas qui a tort, qui a raison. On sait absolument rien de cette situation. Mais on sait une chose, c'est que Dieu nous dit que pour le résoudre, la responsabilité, l'initiative repose sur les deux personnes. Et personne ne peut dire c'est à lui de commencer ou c'est à elle ou c'est à nous. Non, les deux ont la responsabilité de faire l'effort, de faire le premier pas. Et ça, c'est extrêmement important. Évodie doit initier la réconciliation et Saint-Tiche doit aussi initier la réconciliation. Et on peut penser que probablement elle n'avait pas la même responsabilité dans la détérioration de la relation. Hein. On dit souvent qu'on a tort à 50-50. Pas toujours vrai. D'accord ? Parfois oui, mais parfois il y en a un qui a plus fait que l'autre dans la relation. Et ça a dégénéré peut-être plus à cause de l'un que de l'autre. Mais peu importe ici. Ce qui est important ici, ce n'est pas qui a le plus tort ou qui a le plus raison. Ce qui est important ici, c'est que les deux ont la responsabilité devant Dieu d'initier la réconciliation. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche. dit Paul. Et donc, combien de situations, chers frères et sœurs, n'est-ce pas, sont bloquées parce que personne ne veut faire le premier pas? Hein? J'ai déjà vu une fois une image où il y a un pont, vous savez, et puis il y a pas la possibilité pour que deux voitures se croisent et passent sur le pont. Et puis il y en a un qui arrive, et puis les deux voitures arrivent en face, et personne ne veut se ranger pour laisser la place. Hein? Il dit, moi, je suis arrivé un peu avant. Il dit, non, moi, j'étais un peu avant. Et personne ne veut. Donc, on voit parfois des images. Il faut qu'il y en ait un, à un moment donné, qui cède. Même si il est arrivé un peu avant, même si, c'est pas moi, sa voiture est plus grosse et qu'elle est plus petite, elle peut se garer plus facilement. Il y en a un qu'il faut. Un doit toujours faire le premier pas. Dans la vie chrétienne, l'apôtre Paul nous montre ici que c'est la responsabilité sur les deux de faire le premier pas. Dans l'exhortation que Jésus donne, qu'on a lu dans Matthieu chapitre 5, verset 24, il dit la même chose. Il dit, si donc tu présentes ton offrande et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, lui il a quelque chose contre toi. Alors il dit pas, bien tu pries et puis tu dis, Seigneur, faites qu'il vienne me voir pour régler la situation. C'est pas ça que Jésus dit. Il dit, tu te souviens qu'il a quelque chose contre toi, eh bien toi, tu vas le trouver. D'accord. Tu inities, ça t'est venu à l'esprit, eh bien, c'est que le Saint-Esprit te l'a mis dans le cœur pour que tu puisses initier la réconciliation. Laisse là ton offrande, il dit, et va d'abord, toi va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens ensuite présenter ton offrande. Donc deuxièmement, la résolution d'un conflit est en premier lieu la responsabilité des personnes directement impliquées. Troisième chose, ici que l'on peut souligner, c'est que la réconciliation d'un conflit nécessite, entre croyants, bien sûr, hein, je parle de conflit entre croyants, nécessite parfois l'aide d'un médiateur. La résolution de conflits entre croyants nécessite parfois l'aide d'un médiateur. Dans l'histoire de notre monde, n'est-ce pas, quand il y a des guerres ou des conflits, etc., entre nations parfois des parties, il faut des médiateurs, des personnes qui vont servir de zone tampon pour essayer de d'aider les belligérants à discuter, hein. Ne serait-ce que les mettre sur une même table, hein, c'est la table des négociations, hein. Il faut qu'il y ait parfois des personnes une personne extérieure qui vienne pour aider à cela. Il arrive que parmi les chrétiens, les parties en conflit aussi aient du mal à résoudre la situation. Ce n'est pas toujours évident. Hein. Et l'apôtre Paul dit ceci, il dit, et toi aussi, il dit, j'exhorte, verset 2, j'exhorte Évodie, et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur, verset 3, et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Donc Paul acte ici que, peut-être le seul fait de dire à ces femmes, je vous exhorte à vous réconcilier, n'est pas suffisant. Il faut parfois aller au-delà, encore, du simple commandement. Okay. C'est-à-dire, quand on lit la parole et puis elle dit, aimez-vous les uns les autres, n'ayez pas d'animosité les uns envers les autres, c'est le commandement. Ça n'est pas, il est suffisant en tant que commandement. Mais on a besoin que quelqu'un d'autre vienne et nous aide à mettre en pratique le commandement ici. Et Paul dit, j'exhorte et vous dis, et j'exhorte Saint-Tiche, il dit, et puis toi, fidèle serviteur, aide-les à répondre à cette exhortation que je leur adresse. Et donc, la résolution d'un conflit nécessite parfois l'aide d'un médiateur, d'une tierce personne, dans le but d'assurer l'efficacité de la réconciliation. Mais remarquez que il ne s'agit pas ici de n'importe qui. L'apôtre Paul ne dit pas « Et l'église de Philippe, il vous faut aider ces deux sœurs. » D'accord ? C'est-à-dire, il fait appel à quelqu'un de particulier. Il l'appelle comment ? Fidèle collègue. Il dit « Oui, je te prie, fidèle collègue, de les aider. » Le médiateur doit être une personne spirituellement mature. Le médiateur doit être une personne spirituellement mature. Il l'appelle fidèle collègue. Ça veut, d'autres textes disent fidèle compagnon. L'idée est ici d'un authentique compagnon, quelqu'un qui a travaillé avec Paul, qu'il connaît, etc. Alors, on ne sait pas de qui il s'agit ici. Le texte ne dit pas de qui il s'agit, mais sans doute l'église de Philippe sait de qui il s'agit quand il dit. Évodie et Syntyche sait de qui il s'agit et la personne en question sait que c'est elle qui est aussi désignée ici. Donc, on ne sait pas qui c'est. Peut-être c'était un diacre, peut-être c'était un ancien, peut-être c'était quelqu'un d'autre dans l'église qui a travaillé avec Paul. On ne sait pas qui c'est. Ce qui est important ici, et qui est à souligner, c'est que c'est un fidèle collègue, quelqu'un qui est mature, une personne qui est digne de confiance, qui est en accord avec la parole apostolique, quelqu'un dont l'apôtre est certain qu'il œuvrera, non pas à faire grandir le fossé de division, mais qui va vraiment œuvrer correctement à la réconciliation de ces deux personnes. Et donc, c'est quelqu'un qui est mature. Tout le monde ne peut pas être un intermédiaire efficace. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Parfois, il y a des situations où vaut mieux que ce soit telle personne qui s'en occupe parce que il faut quelqu'un qui soit spirituellement mature. L'apôtre Paul dit aux Galates, il dit faire si un homme vient à être surpris en quelque faute, tous vous allez le reprendre. Non, il dit pas ça. Qu'est-ce qu'il dit ? Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, Galates chapitre 6, verset 1, vous qui êtes spirituel, il dit, redressez-le. Et après, il ajoute avec un esprit de douceur, il y a un caractère à avoir, et puis aussi une vigilance à avoir. Il dit, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc, vous voyez, il faut une solidité spirituelle, il faut un caractère, un esprit de douceur, il faut de l'amour pour ces personnes. Et en même temps, il faut être vigilant sur soi-même, parce qu'il y a un risque qu'on tombe dans la même chose ici. Donc, caractère, vigilance et vigilance, on pourrait dire, sont de mise lorsque l'on cherche à aider quelqu'un. Le médiateur doit donc être spirituellement mature, mais il doit aussi être impartial. Il doit être impartial. Il est clair que Paul demande à ce fidèle compagnon d'aider ses deux sœurs ici, mais de la manière que lui, il le fait. Il dit, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche. Il dit, toi, tu les aides. Mais tu les aides comment ? Tu les aides les deux, mais avec le même esprit, c'est-à-dire en étant impartial. Il dit pas à son fidèle compagnon, je te prie d'aider Évodie car elle a tort. Je te prie de parler plus à Syntyche parce que c'est plutôt elle qui a des problèmes. C'est pas ce qu'il dit. Il dit, je te prie de les aider, toutes les deux, également, sans prendre parti, ni fait et cause pour l'une ou pour l'autre. Et vous savez bien souvent que quand il y a des conflits, naturellement, qu'est-ce que l'on fait ? On a tendance à prendre parti. Oui, c'est un tel, j'écoute un tel, et puis, comme c'est mon copain, ma copine, eh bien, elle a raison. Même si, dans le fond, je sais qu'elle n'a pas raison, mais voilà, je vais la défendre. Je vais la défendre parce que, je vais le défendre parce que, il a raison. Et on crée des polarisations, et puis qui grossissent, parce qu'il y a toujours des gens qui viennent s'agglutiner, et puis après, ça fait des clans. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul dit dans le chapitre 2, quand il dit ceci, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. » On peut dire qu'il a cette situation à l'esprit. Il dit, vous allez juger, ne jugez pas en prenant parti. Ça n'est pas bon du tout. Donc, on pourrait dire que le médiateur, quand il intervient, il doit être impartial. Et des personnes dans l'église avaient certainement pris parti pour Évodie dans ce désaccord ou pour Syntyche, en disant, moi, je suis plutôt du côté d'Évodie. Hein. Vous dites, Évodie, elle a raison. Syntyche n'aurait jamais dû dire cela. En tout cas, pas comme ça. Hein. Et puis, l'autre va dire, ouais, mais Évodie doit apprendre à pardonner quand même. Hein. Mais comment pardonner après une telle parole ? Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit ? Moi, je fais confiance à Saint-Ich. Et je la connais bien. Et vous dit, je la sens pas trop. Malheureusement, j'exagère un peu peut-être, mais il me semble qu'on a plutôt tendance à gérer les choses un peu naturellement, au feeling, d'accord, à l'amitié qu'on peut avoir les uns avec les autres. Mais ce passage nous montre qu'on ne peut jamais aider à une quelconque réconciliation en prenant parti. Jamais, jamais. Et c'est pour cela qu'il faut que le médiateur soit quelqu'un qui soit impartial. Qu'il doit aimer les personnes, mais il doit être impartial. Le médiateur doit être impartial et cela suppose qu'il faut sans doute écouter les deux sœurs pour se faire une idée de la vérité. Parce que vous savez, quand les gens racontent quelque chose, ils racontent rarement les faits. Ils racontent des interprétations des faits. Et ce que l'on entend, c'est une interprétation de la réalité. C'est pour cela qu'il faut écouter les deux pour avoir une idée plus juste de la réalité, sans peut-être même en étant certain qu'on n'aura pas peut-être toute la vérité sur la situation. Et ce que Proverbe 18, 7 dit, il dit « Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Puis vient la partie adverse et on l'examine. » C'est ça qu'il dit. Okay. Et dans un autre contexte, qui n'est pas le contexte de difficultés, relationnel. Dans Deutéronome chapitre 13, il est question de l'idolâtrie. On lit ceci, il dit « Si tu entends dire au sujet de l'une des villes que t'as donné pour demeure l'Éternel ton Dieu, » Moïse dit ça au peuple, il dit « Si tu entends dire que des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de la ville en disant « Allons, servons d'autres dieux, les dieux que tu ne connais point. » Il dit ceci, « Tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin, la chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? » Il dit, tu dois t'engager dans la recherche de la vérité. Et ce qu'il y a souvent dans notre manière de faire, c'est qu'on est très peu soucieux de la vérité dans un conflit. D'accord? On se contente des interprétations ou des ressentis. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti la chose. D'accord. Mais est-ce la vérité, ton ressentiment? On se soucie peu de ça. Mais c'est comme ça que j'ai ressenti. C'est comme ça que j'ai compris. C'est comme ça qu'un tel a compris. Et ce qui est important, c'est ce qu'un tel a compris. Non, ce qui est important, c'est la vérité. Et on doit chercher à savoir la vérité. Et celui qui est impartial, il cherche à comprendre la vérité. Il ne s'attache pas à une interprétation de l'un, à une interprétation de l'autre, ce qu'Évody a pu ressentir, de ce que Saint-Ich a dit, ce que Saint-Ich a pu sentir, de ce qu'Évody a dit. Et c'est pas avec ça qu'il va chercher à savoir quel est le fait important ici. Donc le médiateur doit être impartial. Mais troisièmement, le médiateur doit savoir aussi reconnaître l'œuvre de Dieu dans la vie des personnes. Souvent, on peut attaquer les personnes comme si, voilà, bon, on règle une histoire dans la rue, entre voisins, entre collègues. L'apôtre Paul dit ceci, il dit, « Toi, fidèles collègues, aide-les, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont le nom sont écrits dans le livre de vie. » J'aime beaucoup cette manière. Paul dit, il ne dit pas « aide-les, point ». Il dit « aide-les, elles qui ont ». C'est-à-dire, attention, tu dois penser aux personnes que tu vas chercher à aider. Ce ne sont pas des gens qui sont dans la débauche, qui font n'importe quoi, qui marchent dans la rue, qui s'occupent de choses légères, qui sont en train de critiquer les habits des unes et des autres. Ce n'est pas ça. Tu as affaire à des gens qui ont combattu pour l'Évangile, des gens qui sont engagés. C'est des vrais croyants. Ce sont des enfants de Dieu, leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Quand tu t'en approches, tu dois être conscient de cela. Tu ne peux pas dire n'importe quoi à ces personnes. Tu dois les aimer parce qu'elles sont des enfants de Dieu, parce qu'elles servent le Seigneur. Elles ont une difficulté, elles ont un problème, d'accord. mais ce sont avant tout des enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul lui-même, regardez ce qu'il fait au chapitre 4, verset 1, il dit, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'il dit ? Mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi dans le Seigneur, mes bien-aimés. Et après, il dit, j'exhorte et vous dis et Saint-Tiche. Il est en train de dire, ce qu'il dit, il le dit à toute l'église, il le dit aussi à Évodie et Saint-Tiche, il dit, Évodie et Saint-Tiche, vous êtes mes bien-aimés frères dans le Seigneur, vous êtes ma joie, vous êtes ma couronne. Tu es mon frère, tu es ma sœur. Quand les gens ont un conflit, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand ils parlent de l'autre, ils ne disent pas mon frère ou ma sœur. Ils disent cet homme-là. Cette fille-là. C'est des choses que j'ai entendues. Ici même. D'accord ? On dit... Cet homme-là, cette fille-là m'a dit, celle-là, ou celui-là, c'est plus mon frère ou ma sœur. Paul dit, mes bien-aimés que je chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit au chapitre 1. Je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ, y compris Évodie et Saint-Tiche. Il dit, vous êtes ma joie, vous êtes ma couronne. Et il dit, je vous exhorte à être même sentiment dans le Seigneur, parce que je vous aime, il dit. Vous êtes mes frères et vous êtes mes sœurs. C'est ça qu'il dit ici. Et donc, ceux qui sont des médiateurs, ceux qui doivent jouer ce rôle parfois dans une situation, doivent apprendre à reconnaître que ce sont des enfants de Dieu, qui servent Dieu, qui à un moment, passage, qui passent par un moment difficile, mais il faut les aimer pour faire triompher l'évangile de cette situation. Il faut savoir souligner les choses qui sont évidentes. L'œuvre de la grâce de Dieu dans leur vie. Il faut le souligner. Peut-être même le leur rappeler parfois. Hein, parce que Évodie et Saint-Tiche entendent cette lettre qui est lue dans l'assemblée. Elles entendent que Paul dit, elles qui ont combattu avec moi pour la cause de l'évangile, elles dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Et attends, voilà. C'est bien de rappeler les choses que Dieu fait dans la vie des autres. Parfois, on va directement attaquer le problème que la personne a ou ce qu'elle a dit. C'est important de le faire, mais peut-être pas de suite. Peut-être ce qui est important d'abord, c'est de souligner, le Seigneur a agi comme ça dans ta vie. Souviens-toi. Souviens-toi par où il t'a fait passer. Toute la grâce qu'il a accomplie dans ta vie. Mais pas cet homme-là, cette femme-là. Ça se dit chrétien, mais regarde comment ça parle. Non, Paul ne dit pas ça. Ici. Il dit, mes bien-aimés que je chéris, il dit, je vous exhorte à être de même sentiment dans le Seigneur. Quatrièmement, je voudrais souligner ici que la résolution d'un conflit exige parfois l'exposition publique de la situation et des personnes. La résolution d'un conflit exige parfois l'exposition publique de la situation et des personnes. On peut penser, sans risque de se tromper, que des personnes ont déjà essayé de régler la situation. On a déjà vu, les anciens, ou les diacres, ou d'autres ont déjà vu Évodie et Saint-Tiche, peut-être Évodie toute seule, peut-être Saint-Tiche tout seul, peut-être les deux en même temps, que du travail a été fait, etc. Et que, malgré tout cela, ça n'a pas marché. Il arrive un moment où il faut exposer publiquement. Après, le temps privé vient l'exposition publique. Et c'est biblique. Et c'est biblique. D'accord. Tout doit toujours commencer dans le privé. Tout doit être mis en œuvre pour que la chose se règle le plus possible dans le privé. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce qu'un tel ou un autre a fait. Ah, bien sûr, ça circule vite, hein, les choses, hein. T'as vu ce que, ah, tu sais pas, t'as pas entendu ce qui s'est passé, etc. Les gens qui font ça, la Bible dit, ce sont des gens qui sèment la division. Et on doit être très vigilant là-dessus. Parce qu'on doit toujours chercher à préserver le caractère privé de la résolution d'un problème. Mais, il arrive que ça ne suffise pas. Et dans ce cas-là, il faut parfois une exposition publique. Jésus dit ceci en Matthieu chapitre 18. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre quoi? Trois et qu'est-ce qu'il dit après? Lui seul. Trois et lui seul. Privé de chez privé. Il n'y a pas plus privé que ça. Hein? D'accord? Trois et lui seul. Tu le reprends. Il dit, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. L'affaire est terminée, c'est fini. Tu n'as pas besoin d'en parler à qui que ce soit. C'est réglé, il s'est repenti, l'affaire est réglée. Amen, alléluia, gloire au Seigneur. Mais il ajoute, mais s'il ne t'écoute pas, il dit, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Besoin de gens qui soient témoins pour voir que peut-être écouter l'un, écouter l'autre et puis essayer de régler la situation. Donc ça, on a élargi un peu la sphère. C'est semi-privé, on pourrait dire, ici. Et puis Jésus ajoute, s'il refuse de les écouter, dis-le à qui? À l'Église. C'est un commandement, hein? C'est un commandement. On ne doit pas dire, mais pourquoi vous avez dit ça à l'Église? Si les étapes ont été respectées, c'est désobéir que de ne pas exposer la situation à l'Église. Parce que ce qui est en jeu, c'est l'unité de l'Église, l'unité du corps de Christ. Et lui seul, qui est le chef, sait comment on doit traiter avec les situations dans son Église. Et il dit, vous commencez par le privé. Vous faites tout pour que ça se règle. Mais peut-être ça ne marche pas à cause de la dureté des cœurs des personnes. Et on peut supposer que dans le cas d'Évodie et Saint-Tiche, il y avait des choses qui ont été faites. Mais à ce moment-là, voilà, la situation arrive à un tel point que l'apôtre Paul écrit, vous ne devez rien faire par esprit de parti. Ayez un même esprit les uns avec les autres. Si vous avez un avis différent, Dieu va vous éclairer. Mais au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas dans le Seigneur. Et puis ça marche toujours. Alors il dit, j'exhorte Évodie et Saint-Tiche à être de même sentiment dans le Seigneur. Et là, imaginez, et vous dites, Saint-Tiche, on lit la lettre, vous avez vu chapitre 4, ils entendent leur nom, ça fait peut-être un choc, hein, d'entendre son nom cité par l'apôtre Paul qui est à des milliers de kilomètres plus loin, enfermé dans une prison. Ça veut dire qu'il a à cœur la situation. Et donc, il arrive que la résolution passe par l'exposition publique. Mais non seulement la situation est portée à la connaissance de Paul, mais il nomme les personnes. Il ne dit pas ici, certaines personnes ont des problèmes relationnels dans l'Église. Je les exhorte à régler cela. J'exhorte les personnes qui ont des problèmes à les régler. Elles se connaissent. Je les exhorte. Non, il dit j'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche. Il les nomme. Ailleurs dans ses lettres, l'apôtre Paul nomme parfois des personnes aussi. Dans 2 Timothée 4, verset 10, il dit « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent ». Il dit pas « Il y en a qui m'ont abandonné par amour pour le siècle présent ». Il dit « Non, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent ». Il fallait exposer cela publiquement. Il fallait l'exposer publiquement. En 2 Timothée 2, verset 16 et 18, je vais vous lire, hein, 2 Timothée 2, 16 et 18, il dit ceci, il dit « Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. » Et puis je dis pas le verset comme il est à la fin, il y en a qui marchent comme ça, c'est pas ce qu'il dit. Hein. Il dit « De ce nombre sont Hyménée et Philet, ici, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. » Il y a des personnes qui renversent la foi de quelques-uns. Hyménée et Philet, ils l'ont fait. D'accord. Il dit aux Corinthiens, par exemple, ceci, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tout ce même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » On pourrait dire, mais Paul, comment tu as fait pour savoir ça? Qui t'a dit que Il y avait des divisions chez nous. Quelle est cette personne qui a rapporté ? Et Paul dit, « Car mes frères, j'ai appris à votre sujet de la part des gens de Chloé, c'est une famille Chloé, des gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. » C'est Chloé qui me l'a dit. Parfois, on a peur de citer des noms où on dit, il y a beaucoup de gens qui pensent que. Il y a ceci, il y a cela. On m'a dit que. Et quand on demande, mais qui a dit cela ? On dit, ah, moi, je donne pas de nom. Je donne pas de nom. Eh bien, chers frères et sœurs, la Bible nous montre qu'on ne peut pas régler parfois des questions sans des noms. On ne peut pas régler des conflits sans avoir des noms. On ne peut pas, tout simplement pas. Quand les choses arrivent à un certain stade, à un certain niveau où la résolution privée n'a pas marché, il faut des expositions publiques. Et c'est biblique. C'est biblique. Et donc, si on veut aider, on ne peut pas dire « Ah, je sais, il y a des gens qui disent, mais moi je ne donne pas de nom. » On évoque un problème qui existe, mais on ne sait pas qui le dit. Non, on ne peut pas agir de cette manière-là, avec le corps de Christ. Il y a des moments où il faut dire publiquement les choses et où il faut nommer publiquement, parce que la résolution du conflit en dépend grandement. Et puis, cinquièmement et dernièrement, je voudrais dire aussi que la résolution d'un conflit a toujours pour objectif l'unité en Christ. La résolution d'un conflit a toujours pour objectif l'unité en Christ. Ce qui rend souvent difficile la résolution d'un conflit, c'est que chacun est persuadé d'avoir raison. Et on pense que résoudre un conflit, c'est déterminer qui a raison et qui a tort. Et quand on aura mis tout le monde d'accord sur qui a raison, qui a tort, on aura réglé le conflit. Jamais. Ce n'est pas cela, résoudre un conflit. L'apôtre Paul dit, « J'exhorte Évodie à accepter que Saint-Tiche a raison. » Non, ce n'est pas ce qu'il dit. « J'exhorte Évodie à accepter qu'elle a tort dans cette situation. » Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit « J'exhorte Évodie et Saint-Tiche à quoi ?» À avoir un même sentiment dans le Seigneur. Il les appelle à une unité en Christ. Parce que la résolution d'un conflit est toujours d'amener l'harmonie des croyants en Jésus-Christ, avec Christ. Les amener en accord, non pas qu'ils aient la même opinion sur tout, c'est pas cela le problème. D'accord ? Mais le problème, c'est qu'ils soient animés d'une même pensée d'humilité, d'abnégation, qu'ils soient vraiment centré sur Christ et qu'ils recherchent l'unité du corps de l'Église, qu'ils partagent vraiment l'intérêt de l'Église ensemble en Jésus-Christ, qu'ils soient de même sentiment dans le Seigneur. Et plusieurs fois, il parle dans ce passage de « dans le Seigneur ». Regardez au chapitre 4, verset 1, il dit « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez fermes ainsi dans le Seigneur ». Verset 2 que nous lisons, il dit « J'exhorte et vous dis, Saint-Tiche, à être de même sentiment dans le Seigneur ». Et au verset 4, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». C'est-à-dire que Christ est l'objectif, toujours. La résolution d'un conflit, c'est d'amener les deux personnes vraiment à Christ, dans une unité avec Christ. Si on est vraiment dans une unité, dans une soumission à Christ, on est forcément, on va être véritablement dans une communion, dans une harmonie les uns avec les autres. Parce que on regardera les chapitre 2, rappelez-vous, hein, les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. On ne va pas considérer simplement nos intérêts. J'aime la moquette de couleur jaune, celle-là, elle préfère la bleue, etc. Et puis, ça n'aura plus d'importance. Ce qui aura de l'importance, c'est vraiment de faire régner l'harmonie en Christ. Et je peux accepter que, voilà, mes goûts ou mes désirs ne soient pas ceux qui soient choisis et puis que ce soit ceux de l'autre quand je cherche vraiment la paix et l'harmonie en Jésus-Christ. Donc la résolution du conflit est toujours Christ pour objectif. Les croyants, d'accord, ne sont pas des gens assemblés les uns aux autres, ils sont font partie du corps de Christ. Et la Bible dit que Dieu a disposé les membres d'une manière particulière dans le corps afin qu'il n'y ait point de division. On trouve ça en 1 Corinthiens 12. Il dit, Dieu, il a disposé de manière à ce qu'il n'y ait pas de division dans le corps, les membres. Et donc, nous devons être très vigilants pour cela. Okay. À l'église de Corinthe, il dit, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir un même langage et à ne point avoir de division parmi vous et à être parfaitement unis dans un même esprit et un même sentiment. » Vous pouvez ajouter « dans le Seigneur ». C'est exactement ce qu'il dit à Évodice. Un même sentiment dans le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on aime les mêmes robes, la même couleur, les mêmes chaussures, etc. Mais ça veut dire qu'on est animé d'un esprit qui cherche toujours, toujours le bien de l'Église et toujours à ce que Christ règne dans les cœurs. Quelques paroles d'application. L'unité de l'Église est d'une extrême importance, chers frères et sœurs. L'unité de l'Église est d'une extrême importance. Paul ne parle pas d'Évodie et de Saint-Tite juste en passant comme une chose qu'il aurait pu faire parmi d'autres, hein. Mais il parle de cela parce qu'il sait que l'unité de l'Église dépend de la qualité de la relation que les chrétiens entretiennent les uns avec les autres. L'Église n'est pas un attroupement de personnes différentes que l'on met l'une à côté des autres. Parfois, on considère l'Église comme cela. C'est un groupe, je vais le dimanche, c'est un groupe dans lequel je viens, je m'assois, j'ai mes potes, les gens que j'aime bien, les gens que j'aime moins bien, je parle avec ceci et pas avec cela, je viens et puis je repars. Comme on va au supermarché, d'accord ? On prend le produit qu'on aime bien, peut-être on rencontre un voisin, on parle avec lui, et puis on est reparti. Non, pas du tout. L'Église est une famille. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je vous aime mes bien-aimés, vous êtes ma joie, vous êtes ma couronne, vous êtes mes bien-aimés, je vous chéris tous. Et on doit aimer chaque membre individuellement, avec l'amour de Christ. Et si on considère l'Église comme cela, bien on sera soucieux vraiment de conserver, comme l'apôtre Paul dit, de nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Deuxième remarque, nous devons être très vigilants, car le diable est très actif pour semer la division. Et il peut le faire à partir des personnes les plus engagées dans l'Église. C'est ce que ce texte nous apprend. L'apôtre Paul ne dit pas « j'exhorte Évodie et Saint-Tiche à venir plus souvent au culte, être un peu plus engagés, parce qu'on ne les voit pas beaucoup. » Non, il dit « j'exhorte Évodie, j'exhorte Saint-Tiche, il dit « toi, tu vas les aider, elles qui ont combattu. » Elles étaient là au début de l'Église, elles étaient là encore, puisque des années après Paul écrit, elles étaient encore dans l'Église, fidèles, elles ont servi, elles se sont engagées, elles ont mouillé la chemise. Et pourtant, elles sont à l'origine d'une discorde qui peut entraîner la division dans l'Église. Et donc, l'engagement avec lequel on a servi le Seigneur n'est pas une garantie contre le désaccord et le chemin vers la division. La proximité avec l'apôtre Paul, elles ont combattu avec moi, dit-il, n'est pas une garantie contre la division. Le fait même d'être un chrétien avec les noms écrits dans le livre de vie n'est pas une garantie contre la division ou les risques de division. Le diable est très futé. Toutes les brèches, il va chercher à rentrer là-dedans pour semer la division. C'est pour cela qu'il est extrêmement urgent, toujours et prioritaire, de régler bibliquement. Pas de régler simplement, mais de régler bibliquement les divisions qui peuvent exister. Et puis, il nous faut reconnaître que nous avons besoin d'aide aussi dans nos relations. Et parfois, nous avons besoin d'aider les autres. Mais il faut accepter que nous avons besoin d'être aidés. Parce que quand on est dans une situation particulière, on ne voit pas les issues, hein. On est pris par nous-mêmes, on interprète tout par rapport à notre propre situation. Et on a besoin de quelqu'un qui vienne à l'extérieur et qui nous fasse voir la vérité en face. Et faire voir la vérité en face, c'est pas dire « oui, tu as raison, mon frère, oui, tu as raison, ma sœur, l'autre, il est pas gentil, il est méchant. » C'est pas ça, faire voir la vérité. D'accord ? Il faut vraiment amener la personne à considérer une chose. Parfois, les gens disent « oui, tu vois ce qu'on m'a dit, ce qu'il m'a dit, etc. Voilà, franchement, il est méchant avec moi. » Non. Et je pense que c'est pour cela que très peu de versets après, l'apôtre Paul dit « ainsi, regardez verset 8, au reste, frère, que tout ce qui est, quoi, vrai, soit l'objet de vos pensées. » C'est-à-dire que moi, ce qui est vrai doit être l'objet de mes pensées, mais ça doit être pour tout le monde. Et donc, quand j'aide quelqu'un, je dois l'aider à ce que ses pensées soient vraies. C'est ça que ça veut dire ici, hein. Je dois être un artisan qui va aider l'autre à avoir des pensées justes. S'il penche avec, dans sa fausse interprétation, je vais pas le laisser partir par là en disant, oui, tu as raison. Non, je vais faire en sorte qu'il puisse avoir des pensées vraies. Ce que tu as entendu, ça ne veut pas dire ça, mon frère. Tu te trompes. C'est ta douleur qui te fait penser comme ça. Mais c'est pas ça qui t'a été dit. C'est pas ça que tu as mal compris. C'est pas la vérité. Et c'est ma responsabilité de le dire avec amour, mais de le dire ici. Donc nous devons accepter d'être aidés et aussi aider. Nous devons être des artisans de paix. Jésus dit heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ici. Et puis dernièrement, je voudrais dire que l'amour n'est pas incompatible avec l'exposition publique des difficultés ou même le fait de nommer des personnes. On voit bien que le passage que l'apôtre Paul parle d'amour, qui c'est qui peut dire qu'il a aimé les gens autant que l'apôtre Paul a aimé les personnes ici? Il les connaît tous par leur nom, tous. Il dit « Je prie pour vous tous ». Rappelez-vous le début du chapitre 1. Il dit je prie pour vous tous ». Voilà ce que je demande à Dieu de mes prières. « Je vous chéris tous ». Il dit même « Christ m'en est témoin ». C'est-à-dire qu'il parle sous le contrôle de Christ. Que chacun dans l'Église, je vous aime. Et pourtant, c'est lui qui expose publiquement la situation. Et qui dit et vous dit, Saint-Tiche a un problème, il faut régler la chose. Et toi, tu les aides. Donc, il faut que notre conception de l'amour soit juste. Ne pas dire les choses, ça n'est pas une preuve d'amour, bien souvent. L'amour consiste à tout faire pour régler les choses dans le privé. Mais l'amour aussi doit avoir le courage de dire les choses de manière, parfois de les exposer lorsque la situation ne se règle pas. Bien sûr, il faut les faire dans des conditions extrêmement précises et conformes à la parole de Dieu. Mais dire les choses, même, n'est pas un manque d'amour. Parfois même, le fait d'être blessé ne veut pas dire qu'il y a eu un manque d'amour. Nous mesurons le manque d'amour au fait que nous avons été blessés ou pas. Okay, c'est comme si l'enfant mesure le manque d'amour de ses parents par la douleur qu'il a ressentie sur l'arrière-train à cause de la correction qu'il a reçue. Non, c'est pas parce que ça fait mal qu'il y a un manque d'amour. D'accord? Parfois, il y a des corrections qui font plus mal que d'autres, mais le but de la correction n'est jamais de faire mal. Le but de la correction, c'est de corriger. Dieu lui-même, il châtie. Il châtie ce qu'il aime. Donc, la raison première de son châtiment, c'est son amour. D'accord? Et donc, l'amour, parfois, pousse à faire des choses qui peuvent blesser. Mais l'intention n'est pas de blesser. L'intention est toujours de ramener dans un même sentiment en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide à saisir véritablement toutes ces choses. À prendre nos parts de responsabilité dans les situations, à ne pas être de ceux qui propagent encore plus la division, mais de ceux qui cherchent à réconcilier, toujours, que ce soit dans des situations que nous avons les uns avec les autres, que ce soit dans un mariage aussi, l'apôtre Paul en a dit la dernière fois, 1 Corinthiens 7, il dit que les gens doivent se réconcilier. Donc je dois toujours aider les autres à faire ce que la Bible les commande à faire. Si la Bible dit à quelqu'un, tu dois te réconcilier, moi je dois l'aider à se réconcilier. C'est ma responsabilité. Si la Bible dit à Évodie et Saint-Tiche, tu dois te réconcilier, moi je dois les aider à se réconcilier. Si la Bible dit à un couple, toi tu dois te réconcilier avec ta femme, moi je dois les aider à se réconcilier. C'est ainsi que nous devons considérer les choses du point de vue biblique. Que le Seigneur nous aide et nous donne des cœurs débordants d'amour, d'être spirituels et pleins de douceur, afin que nous puissions nous aider les uns les autres. Prions. Te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ta parole et te demandons que tu nous fortifies par elle, que tu nous donnes de considérer l'Église qui est ton corps, en toi tu es le chef, et de l'aimer comme tu l'aimes, d'aimer nos frères et sœurs, de vouloir leur bien, Seigneur, d'être obéissant à tes commandements, d'initier les réconciliations si nous sommes dans une situation telle qu'Évodie ou Saint-Tiche, ou si tu nous donnes de pouvoir le faire, d'être de ceux qui procurent la paix et qui aident à avoir un même sentiment en Jésus-Christ. Te prions que tu nous fortifies en cela, en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.